Radio Barque, 22e, 3e partie, notre invité est Jean-Louis Arajol pour son livre « Insécurité, état d'urgence ». Alors, ça concerne la police et on a conclu, juste avant la pause, cette deuxième émission par, une allusion, alors, à un des grands échecs pour vous et pour d'autres, j'imagine, de la sécurité en France aujourd'hui, c'est-à-dire le trafic de stupéfiants. Un petit mot là-dessus, parce que parmi les préconisations que vous avez dans votre livre, et ça fait parfois hurler certaines personnes, c'est quoi la légalisation du cannabis, quelle est exactement votre position là-dessus?
Notre position, elle est simple, c'est-à-dire que nous considérons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la politique qui a été menée, ultra répressive, ciblée sur les consommateurs, ultra répressif depuis la création de la loi 70, qui est la base de la lutte contre les stupéfiants, la base législative de la lutte contre les stupéfiants en France. Ce modèle-là a échoué. Les chiffres sont là pour l'attester. Bon. À partir de là, je ne vais pas les citer les chiffres, multiplication des infractions.
De toute façon, dans l'actualité, on ne parle que de ça au quotidien, y compris au niveau local.
Voilà, donc, inutile de s'attarder là-dessus. C'est un fiasco. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à appliquer la même politique, à durcir la répression, etc. Ou on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger. Hein, il y a dans des tas de pays. Hein, je vous parlais du Portugal, on pourrait parler de l'Uruguay, on pourrait parler du Canada. Et on essaie d'infléchir et de changer de politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une possibilité, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une réunion de chercheurs, de cliniciens, d'experts. Ils se sont réunis. Ils ont même réussi à faire adopter par le Parlement français en 2023, en novembre 2023, une loi pour expérimenter l'usage du cannabis thérapeutique, par exemple, dans la société.
Bon. Oui, ça a été adopté. Le problème de la nocivité du produit.
La nocivité du produit qu'aujourd'hui on ne contrôle pas du tout, bien évidemment. Lorsque nos enfants potentiels demain, vous voyez ce que je veux dire, vont aller se ravitailler dans des points de deal ou compagnie, etc., on ne sait pas ce qu'ils vont prendre comme produit stupéfiant, et en plus de ça, les dealers ne se contentent pas de leur vendre du cannabis ou du prétendu cannabis, ils vont ensuite leur proposer éventuellement d'autres produits encore plus nocifs. Bon, donc certains pays, étant confrontés à ce problème-là, ont décidé d'emprunter d'autres voies. Alors par exemple, au Portugal, ils ont dépénalisé. D'accord.
Alors le terme exact, c'est dépénaliser.
Il y a dépénaliser et légaliser.
Oui,
ce sont deux choses complètement différentes.
Mais
c'est pas compliqué. Dépénaliser, ça veut dire que c'est toujours interdit, mais qu'on enlève l'aspect délictuel. Voilà. Autrement dit, par exemple, vous avez.
On n'ira pas en prison pour ça.
Voilà. Vous n'irez pas en prison pour ça. Par exemple, sur le Portugal, eh bien, la personne qui est interpellée parce que elle était prise en train de se droguer, Eh bien, elle va passer devant une commission de dissuasion. On appelle ça là-bas une commission de dissuasion. Et donc, la personne, en fonction de son état, en fonction du niveau dans lequel elle se situe par rapport à sa toxicomanie, soit va être invitée et même forcée quelque part à se mettre donc à la disposition d'un corps médical, donc il y a l'aspect, si vous voulez, soins qui vont être apportés, la thérapeutique qui vont être apportée à cette personne-là, soit si elle abuse et qu'elle vend des produits, vous voyez ce que je veux dire, illicite, là, il peut y avoir aussi donc une amende qui peut lui être infligée, mais l'aspect délictuel de l'usage de stupéfiants est enlevé.
Oui, voilà, c'est ça la
différence qu'il y a entre ça, voilà, et la légalisation, qui est au contraire, donc légalise complètement. Il y a une sénatrice, d'Écologie des Verts, qui a déposé en janvier dernier, parce qu'il faut savoir quand même que bon nombre d'élus dans tous les camps politiques, hein, excepté ceux de droite et d'extrême droite, ont proposé ce changement de stratégie. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'ai rien inventé. Bon, y compris dans la Macronie, ce qu'on appelle la Macronie. Bon, il y a des élus qui sont favorables à ça, et pour cause, puisque les autres stratégies ne fonctionnent pas.
Oui, sur le constat de l'échec.
Pourquoi ne pas essayer quelque chose que l'on ne connaît pas et qui marche dans d'autres pays, chiffre à l'appui, et s'entêter à faire des choses chez nous qui ne marchent pas. Voilà. Moi, j'appelle ça dans mon bouquet le syndrome confusionnel.
Mmh, oui, voilà. Donc, vous seriez partisan, et ça fait partie des choses que vous, que vous préconisez.
Ouais, oui, par exemple, on parlait du cannabis thérapeutique. Bon, la loi a été adoptée en novembre 2023. Les décrets d'application ne sont toujours pas tombés.
Oui. C'est pas la seule loi, mais enfin,
on fait plus facilement, vous remarquerez, des lois sur l'immigration en répétition, hein, que sur ce problème-là, qui est pourtant un problème majeur, hein, et qui est fondamental. Alors, plutôt que de prendre les immigrés comme des boucs émissaires de tous nos maux, on ferait mieux de se préoccuper des véritables problèmes de la sécurité.
Oui, alors ça, ça figure dans votre livre, ça, ou
bien sûr. Ah, oui, j'en mets même à plusieurs couches par rapport à ça.
À ce niveau-là. Alors, revenons un petit moment sur la police et le syndicalisme, puisque ça a occupé une grande partie de votre vie, Jean-Louis Arajol.
Ça l'occupe toujours, la preuve.
Ça, oui, oui, ça. Ça n'est qu'une semi-retraite.
Hélas.
Oui. Concernant le syndicalisme et le comportement de la police, vous disiez que l'esprit SGP avait plus ou moins disparu. Récemment, par exemple, il y a quelques semaines à peine, le parquet demande qu'un policier soit jugé en assises pour avoir tué, lors d'un refus d'obtempérer, un jeune, un adolescent. La police, les commissariats et les policiers manifestent leur soutien envers le policier, sous-entendu contesterait un petit peu l'appel de la justice. Quel est votre regard là-dessus ?
Mon regard est que, dans l'intérêt de tous, la police nationale a besoin aujourd'hui de transparence. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une structure qui fonctionne avec d'excellents professionnels, qui s'appelle l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN, qui a plusieurs missions. On parle moins d'autres missions qui sont nobles, et que cette structure et que ce service effectue. Des missions d'audit, des missions de formation, etc. Bon. Je crois, quitte à ce que ce soit d'ailleurs du personnel en fasse partie de l'IGPN qui intègre les défenseurs des droits, mais je crois qu'il faut créer une structure de contrôle indépendante.
Indépendante du ministère de l'Intérieur.
Comment ? Elle peut toujours. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas. Je dis qu'elle peut être suspectée de ne pas l'être.
Oui, suspectée.
Voilà. Hein, c'est le paradoxe de ce service de police. Il peut être suspecté de ne pas l'être. Il y a toujours une suspicion de dire ouais, mais c'est les flics qui sont en train de juger
d'autres
les flics. Donc il y a quelque chose. Ils sont reliés directement au ministère de l'Intérieur. Donc il peut y avoir aussi une pression ou une direction politique qui est prise. Donc nous avons tout intérêt, et les flics les premiers, et les collègues les premiers, plutôt que d'être traînés dans la boue parfois à tort pendant des années, on a tout intérêt à mettre en place en France des structures de transparence. Et le défenseur des droits me paraît être une structure tout à fait appropriée pour cela. Il y a peut-être d'autres pistes, moi j'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, il faut à la fois instituer ce qui existe à l'époque, qui a été dissous par l'Empire Chevènement, c'est pas de ma faute, hein. Bon, c'est le Haut Conseil de la déontologie policière, d'accord, qui puisse être en quelque sorte une instance d'appel pour n'importe quel citoyen, et ensuite, donc, le défenseur des droits soit l'organisme qui va se permettre de contrôler. Alors pourquoi je dis ça par rapport à l'exemple que vous avez cité, mais il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres. Ce n'est pas à la police de faire la justice.
Oui, alors.
Ce n'est pas à la police de faire la justice. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le collègue qui est incriminé dans ce genre d'affaires n'a pas le droit à sa présomption d'innocence non plus.
Oui, évidemment.
Voilà. C'est un citoyen comme un autre.
Un policier comme un autre citoyen.
Voilà. Lorsque l'on se hasarde à lancer des slogans qui stigmatisent les immigrés, moi, ça me révolte. Lorsqu'on se hasarde à lancer des slogans anti-flics primaires, moi, ça me révolte aussi. Voilà. Voilà. Parce que ça met tout le monde dans un même panier, ça crée l'amalgame et ça fait le jeu de l'extrême droite.
Oui, manque de nuance. À propos de la justice, alors ça c'est presque banal, c'est bateau de dire ça, mais souvent la justice, alors, la police et la justice normalement doivent tirer la corde dans le même sens, si je puis dire. Or très souvent on dit qu'il y a des bisbilles, où on se comprend pas, même il y a un antagonisme entre la police et la justice. Là encore, quel est votre regard et on conclura là-dessus.
Mais écoutez, c'est très simple, tout ça est un faux débat. La première chaîne de la justice, c'est la police. Le premier qui fait une procédure qui va donc rentrer dans le cadre de la procédure générale, qui va être prise en compte par un parquet, ben c'est le flic, c'est le policier. Donc le premier maillon de la justice, c'est la police. Alors dire que le problème de la police, c'est la justice, ça revient à dire que le problème de la police, c'est la police. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Oui, voilà, ben c'est un petit peu sur cette question, hein, quelque peu énigmatique, que l'on va conclure. Je rappelle donc, alors votre livre sort ces jours-ci.
Le 31 mars.
Le 31 mars, édition Héraclès.
Édition Héraclès.
Voilà, et intitulé, je vous laisse le soin de le rappeler,
donc, Jean-Louis Arajol. Insécurité, état d'urgence, manifeste pour une police républicaine.
Voilà. Merci Jean-Louis Arajol d'être venu nous parler de, justement, alors de votre carrière, mais également de ce livre et de tout les préconisations qu'il contient. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et rendez-vous à la semaine prochaine.